Je vais laisser la parole à Alexis. On va procéder en trois étapes. Hein. Une première phase, alors trois phases de 30 minutes chacune. Donc la première phase porte sur la description de l'interface, l'outil de modélisation géométrique. La deuxième partie s'intéresse à la description des matériaux, le renseignement des différentes sections et le renseignement des assemblages, avec notamment la question des assemblages avec grader. Et enfin, la troisième partie s'intéressera au module de calcul qui se scinde en deux parties. Hein. On peut faire visualiser les résultats sous forme de combinaison au choix qui est intégré dans le module qu'on appelle module RDM. Et puis, il y a un module EC5 qui permet de vérifier les ELU, les ELS, les différents ELS. Voilà.
Bonjour à tous. Donc effectivement, moi je fais beaucoup de conception sur ce logiciel. L'idée c'est de vous donner donc les bases, un peu le minimum pour pouvoir avancer rapidement sur les modélisations et sur le projet. Donc on va vraiment survoler les fonctions principales pour que vous ayez ces bases-là pour attaquer le projet à partir de vendredi. Vous pouvez l'ouvrir en même temps que moi et essayer les différentes fonctions en même temps que j'avance un petit peu sur le logiciel. Donc au niveau de l'interface générale, quand on va ouvrir le logiciel, on va tomber sur cette page d'accueil qui va nous donner les hypothèses générales du calcul et de la localisation géographique du projet. Et du coup, de cette localisation géographique, Accor va pouvoir définir dans quel site on va être au niveau des charges de neige, de vent et sismique. À savoir que nous, dans notre étude, l'ensemble des chargements sont déjà effectués sur les modèles. Donc finalement, cette page-là, elle a assez peu d'intérêt. Voilà. Sur la partie de droite, ensuite, on va avoir différents onglets. Qui correspondent à différents modules de calcul d'accord. Je ne sais pas si on aura exactement les mêmes, c'est parce qu'en fonction des licences qu'on va avoir, on a plus ou moins d'onglets qui vont nous permettre de faire des calculs différents. Donc tous les premiers onglets, c'est des outils un peu assez simples qui vont nous plutôt être là, c'est des bibliothèques de charges, donc des bibliothèques de charges permanentes. Voilà. Un outil climatique qui va permettre de définir des efforts de neige et de vent. Tous ces éléments-là, c'est plutôt un peu des feuilles de calcul, on va dire, qu'on pourra avoir indépendamment et qui n'interagissent pas directement avec le logiciel de calcul. Ensuite, on a les éléments d'accord express qui sont des éléments de calcul de barre simple, donc on ne va pas trop non plus utiliser. Donc nous, on va plutôt aller dans ces modules-ci, en particulier dans le module 3D. Qui est le logiciel qui va être donc l'outil de calcul, le logiciel de calcul en lui-même. On va avoir deux choix qui vont être le calcul standard et le calcul coq. Nous, on ne va pas faire de calcul coq, on va rester sur des modèles bas. Donc, c'est cet élément-là qu'on va ouvrir. Et donc, là, on arrive dans l'interface du logiciel de calcul en lui-même. Donc, comment. Est-ce que c'est composé? En partie centrale, donc on va avoir la fenêtre de visualisation de notre modèle en trois dimensions. Voilà, on zoome avec la molette, on fait un contrôle-clic pour faire bouger la vue 3D. Et en plus donc de cet élément de visualisation, on va avoir différents onglets en haut. C'est ce qu'on va dérouler là tout au long de la séance. En gros, on va regarder les deux premiers onglets dans la première demi-heure. Ensuite, on va regarder les deux onglets suivants dans la deuxième demi-heure. et la fin dans la troisième partie. Donc la première partie, c'est la définition. Non, on va commencer par la définition du modèle uniquement, en fait. La première partie, ça va être uniquement la définition du modèle. Donc on va commencer par définir des pièces dans ce modèle. Donc c'est cette icône-ci, qui va s'appeler une ligne. Donc on clique sur l'outil ligne et on va avoir cette fenêtre qui va s'ouvrir. Donc systématiquement, Accor, dès qu'on va vouloir lancer une option, va nous ouvrir une fenêtre qui va nous renseigner sur l'option qu'on est en train de développer. Donc là, sur l'outil ligne, j'ai cliqué dessus, je vais cliquer sur un premier point pour définir une ligne. Donc là, on voit la ligne qui apparaît. Et ensuite, pour définir les lignes suivantes, le point suivant, je vais rentrer des coordonnées en relatif par rapport au point de départ. Donc par exemple, si je veux faire un poteau qui fait 3 mètres de haut, je vais faire Z et 3. Donc en gros, ça correspond à 3 mètres dans la direction Z. Donc là, on a créé une première barre. Sur cette barre, ensuite, on va venir... Alors, il y a une notion qui est intéressante, c'est qu'on va avoir ici plein de couleurs sur le côté de l'écran et qui vont nous permettre de faire des groupes. C'est-à-dire que quand on va avoir plusieurs barres, donc ici je crée une autre barre qui va être, qui va faire, je ne sais pas, Y. On va pouvoir sélectionner une barre avec un clic gauche et lui appliquer une couleur. Donc là, elle est sélectionnée en rouge. Et ce qui va permettre de créer des groupes de barres, ce qui va permettre de les sélectionner plus rapidement en passant directement par la couleur. Dès que je sélectionne ensuite une couleur, avec un clic droit, pour le coup, je vais pouvoir sélectionner tous les éléments de cette couleur-là. Donc en général, on crée des groupes de barres avec ces éléments de couleur. Ça permet de modéliser plus rapidement. Donc si je continue mes différentes barres, pour faire un portique, par exemple, donc on va faire c'est une forme un peu. Je peux faire Z moins 1 plutôt que 1. J'ai validé mon deuxième point. Et donc, voilà, là j'ai trois barres qui ont été créées. Et je vais en faire une dernière qui va faire Z-3 pour faire un deuxième poteau. Donc là, toutes les barres que je dessine sont en rouge parce que la couleur rouge est activée ici. Mais je vais pouvoir les sélectionner et les passer, par exemple, passer mes poteaux en bleu. Voilà. Et ce qui va me permettre de sélectionner mes poteaux en faisant un clic droit directement sur la couleur, mes arbres à l'étrier sur la couleur directement. Donc ça, c'est pour la création des lignes. On peut aussi créer des courbes, donc avec différentes caractéristiques ou des spines. Et cet outil-là, on va assez peu s'en servir, c'est pour des éléments prédéfinis. Ensuite, sur ces éléments de barre, on va pouvoir effectuer différentes opérations qui vont être indiquées ici. Donc on va pouvoir découper les éléments. Donc les éléments peuvent être découpés soit en nombre, donc c'est en nombre en partie égale, donc 2, 3, 4, par exemple cette barre, je vais la découper en 4. Alors on voit pas. Tous les outils de visualisation sont plutôt ici situés dans le bas, les outils de sélection et de visualisation. Donc par exemple, là je vais voir le numéro de mes nœuds, là je vais pouvoir sélectionner mon fond d'écran, la couleur de mon fond d'écran, voir ou pas la grille, donc on va plutôt la supprimer parce qu'elle ne nous apporte pas de visibilité. Et voilà, donc on peut voir les repères locaux des pièces, on peut voir les sections réalistes quand on aura appliqué des sections. Et là, c'est les outils de sélection, c'est-à-dire que quand on va faire une sélection, soit on sélectionne tous les items, donc point, barre, pièce ou surface. Et si on en décoche une, par exemple, si je décoche point, lorsque je vais faire une sélection, je vais sélectionner uniquement mes barres, mais pas mes points. Donc, bon, en général, on laisse l'ensemble coché. Pour faire donc des sélections de pièces, c'est un clic gauche sur la pièce pour la sélectionner, ou un lasso dans un sens ou dans l'autre sens. Donc, dans un sens, on sélectionne uniquement les pièces qui sont entièrement dans le, dans la fenêtre de sélection, et dans l'autre sens, on sélectionne toutes les pièces qui sont en contact avec cette fenêtre de sélection. Et on va pouvoir aussi faire des sélections de petites zones, c'est-à-dire qu'en fait, d'un point de vue numérique, ça c'est une pièce dans l'accord, donc c'est vraiment une pièce de bois, c'est-à-dire que c'est l'élément qui va de, d'un bout de la pièce jusqu'à l'autre bout de la pièce sur lesquels on va faire des assemblages. Et il peut y avoir des nœuds intermédiaires sur lesquels vont se raccorder des pannes, etc. Entre chaque élément ici, donc ça c'est une barre d'un point de vue numérique élément fini. Donc ici on a une pièce qui est composée de 4 barres. Et ce qui en fait c'est deux une barre c'est une continuité de pièces qui sont qui ont 0 degré de liberté entre elles. Mais sur une pièce donc on va avoir les mêmes caractéristiques de section, de matériaux, etc., etc. Donc en général on travaille vraiment sur des pièces qui correspondent aux pièces qu'on va vraiment mettre en œuvre sur une charpente bois. Et les éléments numériques barres, eux, sont assez transparents et servent juste en fait au calcul. D'ailleurs, on n'a pas forcément accès à la numérotation de ces barres de calcul. On va avoir accès à la numérotation des pièces uniquement. Donc ici, donc c'est pareil, les visualisations des numéros, on peut les agrandir ici. C'est ma pièce numéro 2. Mais j'aurais pas accès, donc ça c'est ma pièce qui est la numéro 2, mais je n'ai pas accès à une numérotation de cet élément-là qui est un élément de calcul. Donc là on était sur découper. Donc en fait on peut découper en partie égale. Une fois qu'on, si on a fait une erreur avec cette pièce, on veut supprimer ces points de découpage, on fait ici simplifier et ça va enlever tous les nœuds intermédiaires qui ont été créés, tout en conservant donc une seule pièce. Et on peut découper donc en partie en nombre égal ou sur une distance réelle. Donc on peut faire plusieurs tronçons, trois tronçons avec une distance qui ferait 1 mètre puis 1 mètre 50. On applique. Donc ici j'ai un premier tronçon qui fait 1 mètre, un autre qui fait 1 mètre 50. Et il va commencer à découper à partir du nœud le plus proche duquel on a cliqué. C'est-à-dire que si je fais la même opération de découpage depuis le haut de la pièce, il va faire 1 mètre, puis 1 mètre 50, puis le reste de la pièce. Et la troisième façon de découper une pièce, c'est avec des distances relatives, donc c'est des nombres de tronçons, mais on peut les découper à une distance de 0,75, par exemple. Ça va découper aux 3 quarts. Les autres opérations qu'on peut faire, donc ça va être des intersections. Donc c'est-à-dire que si je crée notamment là, je peux leur montrer une autre couleur. Là, j'ai deux pièces. J'ai enlevé les numérotations. Mais qui n'ont pas forcément un nœud en commun. Donc, numériquement, elles sont considérées comme deux pièces qui sont parfaitement détachées. Et donc, pour créer une liaison entre ces deux pièces, il va falloir faire une intersection entre les deux lignes. Donc, une et deux. Et visuellement, voit qu'il y a un nœud qui est apparu entre les deux pièces, et donc là numériquement elles sont liées ces pièces. Ça c'est la fonction intersection qui est très utile. Ensuite nous avons les éditions des lignes et des points. Donc en fait on a trois types d'éditions, soit sur la longueur, soit sur l'angle, soit sur un nœud qu'on veut déplacer. Le nœud qu'on veut dépasser, l'angle, finalement, servent assez peu. Par contre, sur les longueurs, c'est assez intéressant. Donc, on va... Il y a trois façons d'éditer une longueur. Soit on indique la longueur qu'on veut obtenir, c'est-à-dire que si je veux que ma barre fasse 4 mètres, actuellement là j'ai défini une barre de 5 mètres, si je veux qu'elle fasse 4 mètres, donc j'ai déclaré 4 mètres et je clique ensuite sur la barre. Donc là elle fait 4 mètres et elle a tiré tout ce qui était. Elle a tiré le nœud qui venait avec elle. Donc ça c'est une façon d'éditer des barres. On peut aussi rajouter une longueur par rapport à la fin d'une barre. Donc une longueur qu'on indique. Et donc on clique là, donc j'ai rajouté une barre de 2 mètres au bout de cette barre-ci. Une barre de 2 mètres au bout de cette barre-ci. Et l'autre façon, c'est de faire donc une intersection, donc aller chercher prolonger une barre jusqu'à une autre barre. Donc, par exemple, qu'est-ce que je vais pouvoir prolonger? Voilà, pour prolonger, donc je sélectionne la barre et notre barre, et elle est prolongée. Donc voilà, ça c'est les principaux types d'édition des lignes qu'on va utiliser. Donc, édition des lignes et des points, ça c'est des extensions et des prolongations, donc c'est plutôt pour le faire sur des groupes de barres qu'on va assez peu utiliser, donc je ne vais pas m'étendre sur ce sujet-là. Donc simplifier, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est pour simplifier une barre qui aurait été découpée, sur laquelle il y a des nœuds qui ne sont pas utiles et qu'on veut supprimer, des nœuds intermédiaires qu'on veut supprimer. Donc c'est l'exemple que je vous montrais tout à l'heure, si je découpe cette barre en 5 parties égales, donc là j'ai 5 petits nœuds, si je veux les supprimer, donc je sélectionne cet élément et je fais simplifier. Donc l'élément ici va être. On va supprimer ces noms. Donc voilà, ça c'est pour l'édition des lignes. L'autre élément très important, c'est celui-ci, c'est toutes les opérations qu'on va pouvoir faire sur les éléments. En gros, il y a trois fonctions principales qu'on va utiliser, c'est l'édition des lignes, enfin la création de lignes, l'édition des lignes, c'est celle-ci, et ensuite les opérations. Et rien qu'avec ces trois éléments-là, on peut gérer 80% ou 90% de notre géométrie. Donc, le principe, c'est de réaliser des translations, des rotations ou des symétries de différents éléments, d'une sélection. Donc, soit on réalise suivant un vecteur. Donc, c'est assez simple. Si là, je veux faire un vecteur dans le sens X qui fait 5 mètres, et je choisis le nombre d'opérations. Je vais le faire 5 fois, ça va me le faire 5 fois, je vais recopier 5 fois ce portique-là. L'option déplacement va nous demander si on veut sélectionner, si on veut faire sur la sélection seule ou la sélection et les objets liés. C'est-à-dire que si on déplace ce poteau-là et qu'on le fait sur une sélection seule dans un Y. Mon poteau va se déplacer seul, et si je coche cette option-là, l'arbalétrier va suivre avec le poteau. Et donc on peut aussi faire des rotations, donc là il faut déclarer toujours pareil le nombre d'opérations, et l'angle et un axe, et une symétrie, de la même façon, on déclare un point et un vecteur. Donc si je veux déclarer un point et un vecteur. Donc ça c'est pour toute la définition de la géométrie des barres. Et ensuite on va voir les géométries des surfaces. Alors ce qu'il faut être conscient, c'est que les géométries de surface, ça n'est pas des coques, donc c'est uniquement des éléments géométriques qui ne servent pas au calcul. Ça va servir à définir des géométries, c'est-à-dire qu'on peut chercher de cette façon-là des intersections de surface pour créer une barre ou couper des barres avec une surface ou créer des pièces sur une surface, etc. Mais ça ne va pas faire un calcul comme un élément, comme une coque, ou comme ça ne représente rien de physique pour la partie calculatoire. Donc il y a différentes façons d'utiliser ces surfaces. Et ces surfaces-là, nous, peuvent nous servir pour l'application de charges, parce qu'on peut appliquer des charges sur des surfaces, et sur un plancher, par exemple, qui est porté par des solives, ça permet d'appliquer une charge sur une surface de plancher, qui va ensuite l'appliquer directement sur les solives, parce qu'il va identifier qu'il y a des pièces sur cette surface. Donc ce sera plus rapide à appliquer. Alors je sais, je vais plutôt faire ça, transposer. Donc il y a différentes façons de définir une surface. Soit c'est un rectangle, et à ce moment-là, il va nous demander deux points, et il aura défini au départ un plan. Et là, il va nous créer systématiquement du coup des pièces qui vont définir les bords de cette surface. D'ailleurs, je n'ai pas parlé des plans de travail. Donc dans cette partie-ci, on peut définir les différents plans dans lesquels on travaille. Donc c'est soit un plan XY, soit un plan XZ, soit un plan YZ, soit un plan quelconque. Donc, par exemple, là, si je veux faire un versant de toiture, je vais définir un plan par trois points. Donc là, j'ai défini mon plan de travail. Et si je veux créer un plan de toiture, je peux créer un plan de toiture. Donc là, j'ai créé une surface et ensuite, je vais pouvoir appliquer des pièces, par exemple, sur cette surface. Donc, il y a différents outils qui permettent d'appliquer des pièces sur ces surfaces de façon automatique. Voilà. Donc, tout ça, c'est des outils qu'on ne va pas forcément utiliser dans notre étude. Donc, je ne vais peut-être pas m'étendre là-dessus. Par contre, ce qu'il est important que je vous dise sur les pièces, c'est la notion de souder ou d'exploser, que je n'ai pas encore évoqué. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous ai montré qu'une pièce, on pouvait la découper en un nombre de distances réelles. Donc là, si je fais appliquer, voilà. Donc ici, j'ai toujours une pièce qui est découpée en 4 barres. Cette notion d'exploser va pouvoir me les séparer en 4 pièces distinctes. Et donc là, je vais pouvoir indiquer des relâchements particuliers sur chacune des pièces. Si je veux les ressouder, je réutilise ici souder, donc j'ai plus qu'une seule pièce. Ça me permet de liaisonner des barres unitaires entre elles, ou enfin de les liaisonner ou de les séparer. Donc ça, c'est quelque chose qui va être aussi assez utile sur les modèles. Et les derniers outils que je vais vous présenter, donc ça c'est l'outil InfoDistance Pente, qui est très intéressant parce qu'il va vous servir à mesurer le vecteur relatif entre deux points, la distance entre ces deux points et la pente entre ces deux points. Dès qu'on a quelque chose à mesurer, on passe par cet outil et on aura toutes les infos dont on a besoin. On a cet outil. Cet item-là, donc c'est les infos sur le modèle qui vont nous préciser donc le nombre de points qu'on a dans le modèle, le nombre de lignes, le nombre de groupes, le nombre de pièces. En général, quand on a ces éléments-là sur la gauche et qu'on masque... c'est un autre élément qu'il faut que je vous montre, c'est comment est-ce qu'on masque. Donc ici, on a les trois soleils qui vont nous servir à masquer une partie de la sélection. Donc tout est visible, ou à cacher une partie de la sélection. Donc là, c'est clic droit. Donc à chaque fois qu'on actualise, donc ça va actualiser ici le nombre de lignes qui sont visibles. Et le dernier outil, c'est des outils pour la vérification du modèle. C'est des outils, en général, quand on va lancer le calcul et qu'on va avoir des blocages, ici on va pouvoir identifier assez rapidement les principales raisons qui peuvent faire bloquer le modèle de calcul. Donc ça peut être des points isolés. Ça peut être aussi des points proches, parce que dès qu'on va avoir des points proches, en général, ça va être source d'erreur, parce qu'on peut avoir par exemple deux points très proches au niveau d'un appui, donc on a mis l'appui sur un point et pas sur l'autre. Donc en général, dès qu'on a des points qui sont trop proches, c'est qu'il y a une erreur ou c'est qu'il faut les fusionner. C'est pareil pour des toutes petites lignes qui auraient pu apparaître, qui peuvent créer des problématiques. Donc là, on va pouvoir les identifier. On peut voir aussi le nombre de pièces attachées au point pour vérifier qu'on a effectivement des lignes qui se croisent bien et qui sont pas juste visuellement croisées, qu'on a l'impression qu'elles se croisent, en fait elles sont pas liaisonnées. Donc là, on va pouvoir l'identifier assez rapidement. Voir aussi les parties de structure isolées. C'est une des particularités d'accord, c'est qu'on peut on peut calculer qu'un seul modèle de calcul, une seule entité. On va pas pouvoir calculer plusieurs modèles côte à côte, parce qu'ils seront dissociés, et donc on peut calculer qu'un seul élément, une entité complète, quoi. Donc s'il y a des éléments qui sont isolés de la première structure, le calcul ne sera pas effectué. Donc ça permet d'isoler, de voir s'il y a des parties de structure qui sont justement isolées. Donc ça va avoir des pièces qui pourraient être superposées aussi, qui posent des problèmes de numérique. Avoir des pièces sans section, des pièces sans matériaux. Voilà, donc les propriétés de surface, on ne va pas les regarder. Et puis normalement, il n'y aura pas besoin non plus de réparer la base de données. Donc je pense que j'ai fait le tour sur la partie géométrie, modèle. Là, j'ai un bon exemple, c'est que quand j'ai défini mon poteau, c'est dans la partie basse ici, on peut afficher les repères locaux des barres. Là, quand j'ai défini mes poteaux, je suis parti de ce point-ci, je suis monté, je suis allé vers là. Enfin, voilà, j'ai eu un sens de rotation, on va dire, quand j'ai défini ma géométrie, ce qui fait que ce poteau a son X vers le bas, ce qui en soi n'est pas forcément gênant. Par contre, les efforts graphiques de compression, etc., ne vont pas être affichés de la même façon. Ce qui fait que ça peut être gênant. C'est pas trop gênant pour ça, mais c'est plus gênant quand on va avoir des barres où le Z est orienté vers le haut et on va vouloir les charger par rapport à Z. Et effectivement, on va avoir une orientation de chargement qui va être mauvaise. Donc, pour gérer l'orientation des repères locaux, c'est dans propriétés et tout en haut ici à gauche, repère local des pièces. On a différentes options qui nous sont proposées. Soit on gère de façon un peu manuelle l'axe Y, donc on peut lui donner un angle, ce qui peut être utile quand on met des éléments à des verres, par exemple. Je pense en particulier, par exemple, ces pannes, si on veut leur faire suivre, si elles ne sont pas posées verticalement, mais elles sont posées avec l'angle de l'arbre à l'étrier, on peut leur faire suivre un vecteur. Donc je définis le vecteur qui va être l'arbre à l'étrier. Je sélectionne ensuite ma panne, je fais appliquer, et ça ne l'a pas fait. Ah, c'est parce que j'ai changé les repères longuement. Si je refais mon vecteur. Voilà. Et donc, si je sélectionne cette panne et que je fais appliquer, voilà, là, elle oriente son angle Y suivant la pente de la toiture. Permet d'orienter la petite inertie de la panne dans le sens de la toiture. Donc ça, et on peut aussi les orienter par un point, autour d'un point, ce qui va être intéressant qu'on a des éléments, un escalier hélicoïdal par exemple, ce genre de choses assez particuliers, mais on n'utilise quand même pas très régulièrement. Ce qui peut être intéressant, c'est l'inversion des X ou l'inversion des Z. Ça, c'est des choses qu'on utilise assez couramment. Là, je me suis trompé dans mon sens des X, donc j'inverse mes X. Et un autre outil qui est encore plus simple, c'est-à-dire que là, si je le réinverse, c'est qu'on ne se pose même pas la question, on sélectionne tout le modèle et on dit qu'on veut mettre tous les X vers le haut. Et là, toutes les barres qui sont en position parfaitement verticale vont mettre leur X vers le haut. Et pareil pour les pièces, pour l'orientation des Z. Donc là, du coup, normalement, mes éléments ici devraient se remettre d'aplomb. Les Z, eux, sont toujours vers le haut, mais non. Donc, effectivement, ça permet de... Donc ça permet de pointer les Z vers le Z global. Ça n'a pas changé forcément l'orientation des Y, s'ils ont été forcés.
En fait, ça, c'est anodin, mais c'est très utile quand on applique des charges, puisque les charges ont toutes le même signe quand elles sont gravitaires ou des forces de soulèvement, etc. Parce qu'elles sont appliquées par rapport aux repères locaux des barres, en fait. Enfin, leur signe dépend du repère local des barres.
Les charges linéaires sont appliquées, effectivement, suivant le repère local. Ouais. Les charges surfaciques, non. Donc, en fait, on peut éviter l'erreur si on passe par une charge surfacique. Ouais. Mais après, ça, dans la lecture des résultats aussi, ça peut être un peu plus compliqué.
Bon, écoute, ce que je te propose, Alexis, c'est de passer à la partie 2 maintenant. On est un okay. peu dans les temps. Hein, donc, la partie 2 consacrée aux matériaux, renseignement des sections et aux assemblages.
Donc ça c'est l'arc en poutre pleine. Donc ça c'est l'autre voilà c'est l'autre onglet que je vous ai pas montré, c'est le rendu réaliste qui permet de montrer les sections une fois qu'on en a appliqué. Donc là j'ai positionné 4 arcs. En fait c'est uniquement pour comparer des résultats de pour comparer des résultats de calcul. Voilà. Sur ces arcs on va Donc du coup, dans les éléments qui vous ont été fournis, on va avoir cet arc en poutre pleine, enfin la géométrie de cet arc en poutre pleine en portée de 33 mètres et de 51 mètres, et le même arc en poutre treillis. Donc il y aura les deux différentes solutions à étudier. Et donc toute la partie géométrie qu'on aurait pu définir avant, en fait finalement, elle est déjà fournie. Plutôt sur les propriétés qu'on va pouvoir jouer. Donc là, le repère local des pièces, on vient déjà de l'évoquer. Conditions de section pour le feu, on ne va pas l'évoquer parce qu'on ne va pas faire de calcul au feu. L'ensemble des propriétés, c'est-à-dire qu'on peut lancer un calcul avec différents types de propriétés. Ça permet de faire plusieurs itérations de calcul dans un même, enfin plusieurs cas de calcul dans un même calcul. Donc on l'utilise quand même assez rarement aussi. Donc je ne vais pas revenir dessus. Par contre, ce qu'on utilise systématiquement, donc c'est les matériaux pour les pièces. Donc c'est cet onglet-là. Donc il y a 3 types de matériaux, le bois, l'acier, le béton et un matériau quelconque qu'on pourrait définir. Dans le matériau bois, on va avoir le type de bois, c'est du résineux, du feuillu, essentiellement c'est du bois lamellé collé, du lamy bois. Ensuite c'est des anciennes normes, donc ça nous intéresse moins. Et donc là on va pouvoir définir le type de bois que l'on souhaite avec sa caractéristique mécanique. Voilà, lamellé collé, par exemple GL24H, et la classe de service. Donc c'est ici qu'on va déclarer la classe de service qu'on va appliquer au bois. L'épaisseur des lamelles, ça peut être utile dans des vérifications Eurocode quand on va avoir des poutres cintrées. Donc ça peut pour des vérifications particulières de traction perpendiculaire qui apparaîtrait dans la poutre avec des risques de fendage à vérifier. Et donc là, on peut vérifier, on peut donner comme info l'épaisseur des lamelles. Pour nous, ce ne sera pas forcément fondamental. Donc ensuite on sélectionne, on applique. L'autre outil intéressant, ça peut être c'est voir ici. C'est-à-dire que je peux quand je fais un clic droit sur une pièce, j'interroge ses propriétés. C'est-à-dire que si cet élément-là, je le mets en résineux, c'est 18. Donc là, il est sélectionné, je mets appliquer. Donc il est défini comme résineux. Si je fais un clic droit sur cet élément-là, je l'interroge et il me dit que c'est du gel 24. Ici, je sais que c'est du résineux. Et pour vérifier dans quelle section sont mes éléments, je peux par exemple faire un clic droit. Donc pour interroger cet élément-là, il me dit que c'est du gel 24. Et là, je peux voir toutes les pièces du modèle en me faisant voir qui sont déclarées avec les mêmes propriétés. Voilà. Donc c'est assez pratique. Là, je vois, j'ai qu'une seule pièce en C18. Donc là, avec un clic droit, je me remets en gel 24. Je sais quoi. Et j'applique. Pareil pour les sections. Donc ici, j'ai déclaré des sections qui sont ce qu'elles sont, j'ai envie de dire. Elles sont très élancées, hein, c'est 15 cm par 200. Ça n'a pas vraiment de sens, c'était juste pour réaliser le modèle de calcul. Donc c'est pas une section qui a vraiment qui est dimensionnée. Et on peut faire des inerties variables. Donc soit c'est une section constante, la forme de cette section, elle va être rectangulaire, moisée, avec des angles abattus ou avec des angles particuliers ou des sections rondes. Nous, on va plutôt utiliser ces sections-là, je pense, pour notre étude. Et on peut leur faire varier leur inertie, soit deux fois, soit trois fois. Donc par exemple, cet arc lamellé collé, je peux le déclarer en faisant une largeur de 200. Avec un départ qui se ferait, je sais pas, ouais, 80 cm. En partie maximum, elle ferait 1400. Et au sommet de l'arc, elle ferait 900. Et donc, ici, si j'applique, voilà, j'ai une inertie variable qui s'est créée. On peut appliquer. Okay. Et de la même façon, si donc j'interroge cet élément-là, avec un clic droit, il me remet la section, je peux voir les pièces qui ont cette section-là, ou interroger celle-ci, puis l'appliquer sur les autres. Voilà. Donc ça, c'est pour l'application des sections. Ensuite, on peut faire des sections de bois composite. C'est utilisé essentiellement sur des solives de plancher, où on veut créer des sections composites de bois collées. Voilà, donc nous, ça ne nous intéressera pas spécialement dans notre étude. On peut ajouter des excentricités aux barres. Donc c'est pareil, en fait, par rapport à l'axe de calcul qu'on a défini, on peut dire que la section est excentrée par rapport à cet élément-là, ce qui va introduire des excentrements, donc des moments dans les assemblages, etc. etc. Bon, on ne va sans doute non plus pas utiliser cette fonction-là. Par contre, ce qu'on va utiliser, donc, c'est cet élément-là. Alors, si je me veux rendre réaliste. Donc, en fait, actuellement, chaque arc est biarticulé en pied. Et ensuite, on va déclarer les valeurs d'assemblage qu'on va appliquer. Donc, soit ils sont encastrés, et donc ça, c'est un élément encastré, donc c'est la première icône ici. Soit c'est un élément rotulé, comme ici, donc c'est une rotule. Si je fais un clic gauche, donc je l'interroge, et il me dit que c'est une rotule. Ça, c'est un tirant, donc c'est un élément qui aura une résistance uniquement en traction et pas de résistance en compression. Donc il va faire un calcul non linéaire pour utiliser la fonction tirant. Donc ça, c'est les trois liaisons qui sont utilisées le plus classiquement. Ensuite, on peut déclarer nous-mêmes des relâchements. Donc c'est ce que j'ai fait en clé de voûte ici. Où j'ai indiqué en compression une valeur, donc ici on va indiquer si on veut une valeur à l'origine ou à l'extrémité de la barre, et on peut donner un type de comportement. Donc la liaison est soit rigide, c'est qu'elle transmet un effort de façon parfaitement rigide, soit libre, donc elle transmet aucun effort, soit avec une raideur constante. soit avec une raideur différente en compression et en traction, donc, soit rigide avec un jeu. Donc là, on intègre un jeu en fait dans la courbe effort déplacement. Soit K constant avec un jeu. Donc typiquement, ça c'est un assemblage broche, parce qu'en fait, l'assemblage broché va avoir une raideur constante. Quand il va passer de la traction à la compression, en fait, il va avoir d'abord une raideur constante, puis un jeu d'assemblage, puis ensuite une raideur constante. Et ensuite, on peut avoir donc des tractions, compressions différentes avec un jeu d'assemblage. Et ensuite, on peut définir vraiment la droite de traction, d'effort déplacement qu'on veut appliquer à cette liaison. Donc ça, c'est pour la direction X. On peut le faire pour les 6 degrés de liberté. Donc à chaque fois, c'est vis-à-vis du repère local hein, de la pièce. Donc là, je l'ai fait uniquement pour l'effort normal. Et je vais lui mettre... C'est rigide, libre, libre. Donc en fait, ici, on est sur un élément qui va transmettre aucun moment, mais qui va par contre avoir une transmission d'effort normal avec une souplesse. Donc là, pour une valeur de 30 000 kN par mètre. Donc voilà ce que je peux dire sur les raideurs d'assemblage. Ça, c'est un élément croix. C'est un élément particulier. C'est quand on va avoir deux barres de contreventement qui se croisent et donc qui se transmettent autour d'un... C'est comme si on modélisait un ciseau, finalement. Donc, on va avoir un axe de rotation. Donc, les barres ne peuvent pas se transmettre de moment entre elles. Par contre, elles peuvent se transmettre des effets tranchants. Donc, c'est un type d'assemblage qu'on peut croiser assez couramment en bois. Donc ici, qui permet d'être défini soit avec deux barres le plus souvent, mais aussi avec trois ou quatre barres. Ça, c'est pour supprimer donc une liaison. Ensuite, on va voir toutes les propriétés de panneaux. Donc, on ne va pas non plus rentrer dans le détail de ces propriétés de panneaux, mais ça permet, quand on fait des panneaux au saturbois, sans passer par un calcul coq, de définir la rigidité des panneaux et de donner une raideur aux surfaces qu'on aurait modélisées précédemment. Donc, soit sur des murs, soit sur des planchers, soit créer des diaphragmes rigides. On peut aussi ajouter des masses. Bon, ça, c'est plus pour la partie dynamique, si on a des calculs dynamiques. Et ensuite, on a les conditions d'appui. Les conditions d'appui, c'est relativement similaire à ce que je vous ai montré sur les relâchements. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer là, donc j'ai créé une rotule, c'est une rotule parfaite. Donc avec tous les déplacements imposés en X, Y, Z, par contre les rotations autorisées en X, Y, Z. J'ai positionné un appui ponctuel en tête de chaque arc. On ne le voit pas s'il n'y a que V qui va être imposé. En fait, c'est parce qu'on travaille sur un élément 2D. Dans un environnement 3D, donc si on le charge, il va avoir tendance à vouloir basculer dans la direction Y, donc je viens le bloquer dans cette direction-là, mais cet appui ne doit pas présenter de réaction d'appui, normalement, une fois qu'on a effectué le calcul. C'est juste numériquement pour le tenir, parce qu'effectivement, s'il n'y a rien qui le tient, il va basculer. Mais il ne doit pas y avoir de réaction d'appui qui apparaît sur cet élément-là. Et ici, j'ai intégré des raideurs aussi au niveau des appuis qui correspondent plutôt à un déplacement, à une souplesse au niveau de l'appui. Donc ça, on reviendra un peu plus finement lors du TD sur ce sujet-là. C'est pour prendre en compte en fait le fait que les arcs sont pas directement liésonnés à un élément parfaitement rigide qui serait bloqué dans le sol. On appuie les arcs sur une console métallique et donc elle présente une certaine rigidité qui convient de modéliser parce que ça peut effectivement modifier les éléments de calcul. Donc pour illustrer un peu ce propos sur ces quatre arcs, Donc en fait, si on revient sur les différences de modélisation, les deux arcs qui sont, on va dire, rouges et jaunes, ils sont rotulés en tête. La seule différence, ils sont articulés donc en tête. La seule différence, c'est que c'est sur cette articulation-là, j'ai intégré une raideur normale, dans le sens normal à la section de bois. Sinon, c'est les mêmes arcs. Et ici, on a un arc parfaitement encastré en tête et rotulé en pied. Et donc, c'est le même arc parfaitement encastré. J'ai intégré des appuis qui seraient souples. Donc, oui, c'est ça. L'appui souple, il fait 3000 kN. Donc les charges, c'est pareil, vous n'aurez pas à vous en occuper parce que du coup, c'est moi qui ai réalisé le chargement. Les barres sont préchargées, elles sont chargées suivant des charges réparties sur les poutres. Je n'ai pas utilisé de surface pour réaliser ces chargements. Et donc, si on calcule. Je reviendrai après sur la partie analyse et calcul.
Oui, là tu empiètes un peu sur la troisième partie ou...
C'était juste pour la partie résultat RDM pour voir un petit peu les résultats qu'on allait pouvoir obtenir. J'ai juste calculé, mais je cherche pas. Donc c'est si on identifie ces deux éléments là. Donc ça c'est on est dans la partie résultat RDM, c'est juste donc pour vous montrer les résultats qu'on obtient en différence de déplacement. Donc ça c'est l'élément avec une raideur au niveau de la clé de voûte et un élément sans raideur. Donc en fait la différence avec ce choix de raideur là, hein, donc on voit qu'on a bien ici, donc là j'ai interrogé ce point là en termes de déplacement. On voit bien qu'on a une différence de déplacement en Z. Donc d'un côté qui est pas fondamental mais qui est quand même présente. Et par contre, avec des efforts normaux qui, eux, ne varient pas, et les moments qui, eux, ne varient pas non plus. Et si je fais... Donc j'ai bien des déplacements qui vont varier, des efforts qui ne vont pas varier dans ma structure. Et donc là, c'est mes deux arcs qui sont, eux, encastrés, un avec une raideur horizontale en pied, et l'autre parfaitement encastré. Donc là, en termes de déplacement, est-ce qu'on a des différences? On a aussi un petit peu de différence, en particulier donc en pied. En fait, d'un côté, mon nœud va être parfaitement fixe, et ici, mon nœud va se déplacer. Et on va pouvoir constater qu'on a aussi une petite différence. Je pensais qu'elle était plus forte que ça, mais bon, ça dépend des valeurs. Mais ça dépend de la valeur du déplacement d'appui. Mais on peut avoir une différence dans la répartition des moments, en fait, dans l'arc, du fait de ce déplacement d'appui. Voilà. Donc, si on revient à la partie propriété. Et donc, sur la partie propriété, je pense que je vous ai...
Écoute, merci Alexis.
Je pense que c'est bon.
Ça m'a semblé assez clair. Moi, je reviens un petit peu sur la partie modélisation. Parfois, il y a des géométries un peu complexes et on peut être habitué à utiliser un modeler. Et ce qui semble intéressant, c'est de charger un fichier qui vient d'un autre logiciel. Plus spécifique pour le dessin. Donc, quelles sont les possibilités avec Accor en termes de téléchargement de modèles géométriques venant d'un autre logiciel?
Alors, du coup, donc c'est dans cet onglet à droite, on peut faire un clic droit ici et on peut faire un import. Ça va être essentiellement du DXF. Moi, j'ai toujours utilisé du DXF. AutoCAD exporte en DXF et sinon Rhino aussi peut exporter en DXF sur un format assez courant. Donc ça permet d'importer une géométrie depuis un autre logiciel dans Accor.
C'est ce que toi tu pratiques.
C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait effectivement sur ce projet-là. J'ai importé ma spline depuis AutoCAD. Et ensuite, j'ai travaillé à partir de cette spline
Et
que j'ai transformée.
sur quel document tu t'es appuyé pour retrouver la géométrie sur
Sur des exports de plans que j'ai trouvés sur Internet. Donc, c'est
Tu as
pas
trouvé des plans sur Internet?
extrêmement précis, mais ça permet de bâtir une géométrie qui était relativement proche. Voilà, on n'est pas précis au centimètre près, mais on s'approche de la géométrie qui est du projet. Donc là, ça c'est un modèle de calcul d'une structure hein, qui se développe. Donc ça c'est une trame type. Elle se développe ensuite sur 200 mètres de long. C'est une jetée d'aéroport. Et donc là, sur cet élément-là, effectivement, j'ai créé des surfaces. Donc c'était pour voir un petit peu comment est-ce qu'on allait faire la partie chargement, les différentes façons de faire une partie d'appliquer les charges. Et ensuite, la partie donc, analyse, résultat RDM et vérification Eurocode. Donc, sur la partie chargement, bon, on l'a déjà évoqué en fait rapidement. Donc, les charges, donc, on définit ici les différents cas de charge. Par défaut, Accor nous en propose, je ne sais plus, c'est 4 ou 5. Et donc, il va y avoir les charges permanentes, charges de potation, de neige, et puis un vent ou deux vents. Voilà. Donc, ensuite, on peut en rajouter, soit par copie d'un autre élément, soit par. Soit en faire un nouveau intégralement. Donc voilà, ça c'est pour créer des cas de charge. Ensuite, on navigue dans ces différents cas et on applique les charges. Donc sur les charges permanentes, on peut appliquer des charges volumiques. Donc là, elles sont prises en compte, indiquées ici. Donc, c'est le poids propre des éléments de structure. On peut appliquer des forces ponctuelles, donc c'est uniquement sur des nœuds qui vont être localisés dans le repère global. Ensuite, on peut avoir des charges ponctuelles sur des poutres. Donc, voilà, on indique la position sur la poutre, etc. Si on indique par rapport au repère local, repère global. On peut avoir donc différentes charges linéiques sur des poutres aussi, soit des charges qui vont suivre le. Qui vont être appliquées de façon gravitaire. Donc ça va être tout ce qui va être charge permanente, charge d'exploitation. Des charges qui vont être projetées horizontalement, donc ce qui est pratique pour tout ce qui va être charge de neige, ça évite de faire des calculs sur rampant, etc. Et des charges de vent qui vont être systématiquement perpendiculaires à l'orientation Z de l'élément, au Z local de l'élément, ce qui est pratique pour les charges de vent. Et donc systématiquement, on peut soit avoir une charge linéaire, soit avec une dégression, soit ben voilà, c'est quelconque, on va dire, avec un départ, une fin, et puis une charge qui ne sera pas linéaire. On peut appliquer des charges thermiques, mais bon, ça va peu nous intéresser. Donc ensuite, c'est les charges surfaciques, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc le sujet de rendre les pièces porteuses. Donc ici, je veux calculer plutôt cette tranche-là. Donc en fait, j'ai fait trois tranches pour être sûr d'avoir mon portique central qui soit chargé au maximum. Et ensuite, j'ai appliqué des charges surfaciques. Donc de la même façon que les charges linéiques, on a la répartition. Donc est-ce que c'est une charge gravitaire? Est-ce que c'est plutôt une charge de neige donc, qui va être projetée sur le rampant ou une charge de vent? Et ensuite, on va pouvoir définir des zones si on veut sur cette surface. Appliquer des valeurs qui sont différentes sur une surface. Donc, en l'occurrence, là c'était assez homogène sur mes charges permanentes. Donc, on peut toujours interroger la valeur sur un clic droit. Donc là j'avais mis 150 kg, 250 éléments là. Toute la partie centrale, la grise, est en béton armé, donc en fait elle n'est pas vraiment calculée. Donc voilà, si je vais dans. Ensuite, on va dans la partie analyse. Dans cette partie, donc il y a tous nos cas simples qui sont identifiés ici. Ensuite, on peut créer des modes de vibration. Enfin, tout ça, on va pas l'utiliser parce qu'on ne va pas faire de calcul dynamique. Et on va ensuite pouvoir faire des combinaisons linéaires. Donc, je vous ai déjà indiqué les combinaisons qu'on aura sur le palais éphémère. Je pense que j'ai juste une combinaison ELU et deux combinaisons ELS instantanées flèche finale. Mais on peut en intégrer d'autres. Donc là, j'ai mes flèches pour la charpente métallique. Là, j'ai mon ELU feu. Donc l'ELU feu, en fait, on définit des propriétés de sections différentes en calcul au feu. Je pense que vous avez eu un petit cours sur le calcul au feu. On va avoir des sections qui vont des propriétés réduites pour les sections. Donc, en fait, on va diminuer la section de bois en fonction du temps d'exposition à l'incendie. Et on va appliquer des chargements qui vont être pondérés suivant un chargement accidentel. Donc on va prendre un peu moins de charges d'exploitation en particulier. Et ça, c'est une phase provisoire, c'est pour les flèches qu'on vérifie sur des éléments de seconde œuvre. Tout ce qui peut être élément vitré, placoplâtre, etc. On va considérer ce qu'on appelle des flèches nuisibles dans le DTU bois et qui correspondent aux flèches du haut fluage. Plus les flèches instantanées dues aux charges permanentes qui sont appliquées à la suite de l'élément, qui ont été mises à la suite de l'élément fragile. Donc, je ne sais pas si c'est très clair, mais quand on va mettre une cloison placo de placo plate, par exemple, donc sur une solive. La solive, elle aura déjà eu le poids propre donc de son complexe de plancher. Mais par contre, elle va continuer à se déformer sous les charges d'exploitation, sous les quelques charges additionnelles qu'il y aurait sur le complexe de plancher et les flèches du haut fluage. Donc pour différencier ces différentes phases, en fait, on crée une phase complémentaire de calcul. Donc systématiquement, on peut quelles sont les propriétés. Donc là, on a la liste des combinaisons qui sont étudiées. Donc voilà, qui peuvent être créées de façon manuelle ou automatique en indiquant les coefficients ici. Donc normalement, tous ces éléments-là sont déjà pré-remplis dans vos modèles. Vous n'aurez qu'à cliquer sur « Calculer » pour lancer le calcul. Et on aura 3-4 charges. Nous, charge permanente d'exploitation de neige, et trois combinaisons, ce que je disais, donc une structure et deux types de flèches instantanées et finales. Ensuite, on a un onglet de résultats RDM. Donc sur les résultats RDM, ce qu'on va pouvoir identifier, c'est les déformations, les déplacements. On peut lancer une petite animation à côté pour faire déformer la structure. Ensuite, si on veut avoir des valeurs particulières, il faut aller ici et faire un clic droit sur le nœud. Et là, j'ai la valeur de déformation de ce nœud-là, donc dans la direction, enfin dans le repère global et en valeur absolue. Et la rotation aussi. Donc ça, c'est les façons de les avoir de façon graphique. Je vais avoir aussi mes réactions d'appui, donc ici qui sont indiquées en partie basse. Donc là, j'ai une réaction d'appui de 291 kN. Ensuite, j'ai mes efforts dans les barres, donc il faut à chaque fois décocher. Si on veut. Ces graphiques-là, on peut jouer sur la taille. Ça prend un peu de temps. Dès qu'on touche un peu trop à l'interface graphique. On peut jouer sur la taille des écritures. Donc on peut avoir donc les efforts normales, les efforts tranchants dans ces deux directions et les différents moments. On récupère aussi les contraintes de traction, de compression. On peut en avoir deux affichés en même temps. Donc on voit tous les éléments comprimés et tendus. Les contraintes dues à la flexion uniquement. Nous sommes des contraintes normales. Donc compression, traction et flexion. Et nos efforts et les contraintes d'effort tranchant. Ensuite. Quand on a cliqué sur un élément et qu'on est sur la partie info ici. Donc si je me mets sur cet élément-là, info MNV par déplacement du bouton gauche de la souris. Donc là, je peux me déplacer sur un élément et voir en direct en fait l'évolution de ses valeurs. Donc en particulier, là, si je me clique. Donc si je veux suivre un petit peu l'évolution de mon MY sur cette traverse à multiples appuis, je peux ici avoir directement toutes les valeurs numériques le long de cet élément-là. Par un simple clic de souris. Donc après, on se met soit sur un cas de charge, soit sur un ELU. Donc là, ça va me faire l'enveloppe des différents cas de charge. Donc du coup, je vais effectivement avoir plus de valeurs parce que je vais avoir le M mix et le M, enfin, les valeurs min et les valeurs max à ce point de la combinaison. Donc ça, c'est avec cet outil-là. Et donc là, on a tous les résultats RDM, donc c'est-à-dire qu'on a l'ensemble des valeurs de contraintes et de déplacements de l'ensemble des points du modèle, et ensuite on va faire des vérifications Eurocode. Donc pour vérifier les valeurs aux Eurocode, donc on a un onglet particulier, et ici on va déclarer les conditions de vérification d'une section. Donc on va cocher avec vérification réglementaire. Là c'est pour savoir si on avance par item ou si on veut appliquer la globalité des propriétés de vérification de Eurocode à une section ou à une autre, ou si on veut appliquer uniquement des valeurs de flambement ou de flèche à une section. Nous, en général, on va plutôt sélectionner l'ensemble. Donc, c'est plutôt des valeurs utilisateurs. Et là, on va pouvoir mettre des ratios. On a systématiquement 6 critères de vérification ici. Les flèches dans la grande inertie, les flèches dans la petite inertie. Les conditions de flambement dans la grande inertie, les conditions de flambement dans la petite inertie. Les conditions de déversement de la membrure supérieure et les conditions de déversement de la membrure inférieure. Sur le premier item, on va déclarer quelle vérification on fait. Donc on voit qu'ici, si je ne veux pas vérifier les flèches dans ma petite inertie, ben je la décoche et donc elle va partir ici. Si c'est une pièce qui n'est pas soumise à de la compression, uniquement de la flexion, je vais enlever ces vérifications flambement. Et ensuite, donc, je peux l'appliquer sur une pièce. Et ensuite, je vais dérouler plutôt les items ici. Donc, en donnant ces éléments-là, est-ce que c'est une pièce en console ou une pièce si c'est une portée, et et la distance en fait de ma portée et de ma console. Donc là, je suis sur une pièce qui est sur plusieurs appuis. Donc, il faut que je déclare quelles sont mes portées et quelles sont mes consoles pour qu'ils puissent faire la vérification ELS à différents points de la pièce. Donc sur une console, il va la faire à l'extrémité de la pièce. Enfin, sur la partie, sur le tronçon console, il va le vérifier à l'extrémité de la pièce, et sur le tronçon ici, qui est une tronçon de portée, il va le vérifier à mi-portée de la pièce. Et pareil pour les conditions de déversement. Donc là, je n'avais pas de conditions de déversement ici. Sur la membrure inférieure, je n'étais pas tenu. Voilà. Et donc ça, on peut le faire de façon donc via ce tableau d'édition ici. Donc ensuite, on clique sur une pièce et on met appliquer. Donc là, j'ai appliqué tous ces critères de vérification Eurocode à cette pièce-là. Et ensuite, si je veux éditer en direct, j'ai donc ces 6 critères qu'on va retrouver ici, qui sont donc les conditions de flambement suivant Y, suivant Z, de déversement, nombre sup, nombre inf, et de flèches, grande inertie, petite inertie, qui sont ici, et qu'on va pouvoir éditer, si on veut, directement sur la pièce. Donc cette pièce-ci, donc elle a une condition de flambement dans sa grande inertie. Donc ici, j'ai 3,77 m sur la partie en console. Ensuite, j'ai un tronçon de 4,60 m et un autre tronçon de 6,70 m. Donc voilà sur les différents éléments. Et ça, on va le faire sur les différentes pièces du modèle pour éditer ces différentes valeurs. Donc un poteau, on va essentiellement le vérifier en flambement. Enfin, c'est pour ça qu'il faut identifier quelle vérification on va vouloir faire sur chaque élément, pour appliquer correctement les vérifications réglementaires qu'on va faire sur les pièces. Et une fois qu'on aura appliqué des vérifications réglementaires sur certaines pièces, donc c'est les pièces qui sont en couleur là, sur le modèle, on peut lancer donc, des taux de travail qu'on va pouvoir vérifier aux ESVALU. Donc j'ai différents taux de travail aux ESVALU de mes pièces. Voilà, donc j'ai un peu de 77%, cet élément-là 46. Et pareil aux ELS. J'ai un petit dépassement de flèche sur cette pièce. L'onglet assemblage, je pense qu'on n'aura pas le temps de le voir, mais je crois que je l'avais fait celui-là. Ici, j'avais déclaré un assemblage. Ici, je fais mise à jour. Donc, en fait, l'outil assemblage dans Accor, donc la partie Accor 3D, va m'ouvrir une feuille de calcul qui va me présenter la géométrie simplifié de l'assemblage et mettre à jour systématiquement les charges et les différentes combinaisons de charges qu'on va avoir qui vont solliciter cet assemblage. Par exemple, ici j'avais dû définir un embrèvement, et donc là on peut définir différents types d'embrèvement et faire différentes vérifications de calcul sur cet embrèvement. Voilà, les géométries des pièces est déjà intégrée directement. Donc on a déjà la géométrie, les combinaisons et les chargements qui sont intégrés et mis à jour automatiquement. Donc ça permet quand même d'aller assez vite. Donc voilà sur la partie assemblage. Donc ça c'est quelque chose, si vous avez le temps de l'explorer, c'est intéressant. Mais ce sera plutôt un plus, quoi. Donc là, moi j'ai mis à jour des assemblages sélectionnés. Si on veut en créer un, c'est ici. Je ne vais pas m'étendre dessus parce qu'effectivement, c'est pas vraiment le. Vraiment le sujet. Et sur la partie notes de calcul, donc sur la partie notes de calcul, on a toute une liste d'items sur la partie gauche avec une arborescence, et on coche les éléments qu'on veut voir apparaître. Alors là c'est pareil, en fait c'est ce qu'on va faire apparaître sur notre partie vérification Eurocode qui va apparaître dans la note de calcul, c'est-à-dire que si je sélectionne seul un élément est visible. Donc si dans ma note de calcul je fais une vérification aux EC5, donc moi je vais vouloir on va dire tous les résultats EC5 sur cette pièce là. Ensuite je génère une note de calcul. J'ai les résultats synthétiques. et les résultats détaillés sur ma pièce en fonction des données Eurocode que je lui ai renseignées précédemment dans la partie vérification Eurocode, donc avec les bonnes longueurs de flambement, les bonnes vérifications de flèches, etc. Ici. Donc voilà, et ça c'est pour une pièce. Et c'est vraiment en fonction de ce qu'on affiche en fait dans la partie vérification européenne sur le modèle. Si je me remontre tout, je fais donc une note de calcul, je vais plutôt regarder mes réactions. Donc là j'ai mes réactions d'appui qui apparaissent en fonction des différents cas de charge. Donc ces éléments, on peut les exporter directement dans Word, donc sous forme de tableau qu'on peut ensuite copier-coller sous Excel. Il n'y a pas un lien direct vers Excel, mais on peut les copier-coller sous Excel. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout. On peut peut-être détailler une note de calcul d'un élément quand même. Si je fais ça, la sélection. Faire une petite lecture de la... Donc là, en première partie, c'est les résultats synthétiques. Donc nous, on n'a pas forcément besoin de les regarder quand on n'a qu'une pièce. Hein. C'est quand on a beaucoup de pièces, en fait, ça permet d'identifier rapidement des critères qui ne passeraient pas. Mais dans les résultats, détaillés, donc on a la résistance aux contraintes axiales. Donc c'est la formule Eurocode avec l'ensemble des contraintes axiales qui sont prises en compte. On a une deuxième vérification au feu parce que dans ce cas de calcul, moi j'avais fait une vérification, j'ai une vérification incendie à faire. Donc on voit qu'ici on a une section, on a des valeurs de section B et H qui ont été réduites en fonction de l'incendie. Qu'est-ce qu'on nous donne? X-Rail, c'est la position de vérification sur l'élément. On a la combinaison et on a donc l'effort auquel est soumis la pièce à cette valeur. Donc on connaît exactement la position sur laquelle est faite la vérification et sous quel cas de charge. Donc pareil au cisaillement, pareil au flambement et au déversement si on a demandé de vérifier ces critères-là, suivant effectivement les critères qui ont été énoncés. Et pareil ici, mes critères de flèche. Donc j'avais trois critères de flèche, une instantanée, une finale et une sous revêtement fragile. Donc sur mes quatre éléments, donc j'ai une console, une travée, une travée, une console. Et donc j'ai mes taux de travail sur les trois critères de flèche sur les quatre éléments qui sont indiqués. Et dans une direction et dans l'autre, je vérifiais que sur les 14 mètres. Je ne sais plus exactement pourquoi. Voilà ce que je peux vous dire sur la lecture de ces résultats. Donc ici, c'est une flèche instantanée. Donc flèche instantanée sur flèche admissible. On a le cas de charge qui apparaît ici. Ici, c'est la flèche finale moins une contre-flèche. Donc moi, j'ai pas de contre-flèche. Et ce qu'on indique ici, le WCRIPS, c'est donc la flèche qui est due au fluage, qui est intégrée dans les 10,86 mm ici. J'ai 2,82 qui sont dus au fluage. C'est pour info, il nous donne cette valeur-là. Et sur une valeur admissible de 20 mm, qui correspond à L sur 100 en console et L sur 200 en travée. Et donc j'ai le taux de travail qui apparaît à côté. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour sur les résultats et sur les notes de calcul.